Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La bataille du budget italien est ouverte. En ne réduisant pas la dette et en prenant des réformes de relance, Rome inquiète Bruxelles. C'est un dérapage sans précédent, disait hier la Commission dans une lettre. Nous rejoindrons notre correspondante de l'autre côté des Alpes. Et puis nous nous pencherons sur ces eurosceptiques, et notamment en Italie, qui veulent convaincre les électeurs lors des européennes dans 7 mois. L'Américain Steve Bannon tente de les fédérer.
Donald Trump menace de fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour empêcher les migrants d'entrer dans son pays. 3 000 personnes ont quitté le Honduras dans cette direction.
Dans cette édition encore, nous nous pencherons sur les rendez-vous qui s'enchaînent entre des présidents de région et l'exécutif. Les élus sont-ils dupes de cette opération séduction?
Et puis nous détaillerons les informations de la cellule investigation de Radio France à propos des comptes de campagne de la France insoumise. Il est encore question de surfacturation.
Frédéric Saïs nous fera écouter quelques archives dans un gros quart d'heure. Les jeunes premiers en politique seront en une de son billet, alors que le plus jeune ministre de la 5e République vient d'être nommé Gabriel Attal. Quand ce n'est pas le Royaume-Uni, c'est l'Italie. Après avoir constaté le blocage de la négociation sur le Brexit, les Européens ont réagi hier à une autre menace venue de Rome. Une menace budgétaire à coup de chiffres, de déficit, de dette. Comme attendu, le projet de budget concocté par la nouvelle équipe gouvernementale italienne, à savoir la Ligue d'extrême droite et le mouvement populiste des 5 étoiles, ce projet de budget donc, qui prône une politique de relance, ne convient pas à la Commission européenne. Pierre Moscovici, le commissaire à l'économie, est en visite à Rome depuis hier pour négocier à ce propos. Et il a remis au gouvernement italien une lettre de la part de la Commission. Le ton y est cordial, mais très ferme, Mathilde Imberti.
Le dérapage italien est sans précédent dans l'histoire du pacte de stabilité, écrit la Commission dans un courrier remis en main propre par Pierre Moscovici au ministre de l'économie italien. Le projet de budget prévoit un déficit à 2,4%, bien au-delà des 0,8% promis par le gouvernement précédent, et aucune garantie sur la réduction de la dette. Sur le papier, un projet italien hors des clous, mais c'est une phase de dialogue qui s'ouvre, souligne le commissaire aux affaires économiques, Pierre Moscovici, qui cherche à calmer le jeu.
Avant toute chose, je tiens à dire que l'Italie est traitée exactement comme les autres États membres. Sur cette question, il n'y a ni arrière-pensée, ni jeu politique, ni discrimination. J'ai beaucoup de sympathie, d'affection, d'amour pour ce merveilleux pays qui est fondateur de l'Europe. Et je n'imagine pas l'Italie sans l'Europe, l'Europe sans l'Italie, ni l'euro sans l'Italie, et l'Italie sans l'euro. Je sais que l'arbitre n'est pas toujours très populaire, mais tout de même, c'est vers lui qu'on se tourne pour faire respecter les règles du jeu. La Commission veille à l'intérêt général, elle est en quelque sorte l'arbitre sur le terrain.
L'Italie devra répondre aux observations de la Commission européenne d'ici lundi. « Je ne suis pas monsieur pronostic », a répondu Pierre Moscovici à la presse, qui l'interrogeait sur la possibilité de rejet du budget italien. Ce serait une première dans l'histoire de l'Union européenne. Du côté du gouvernement italien, pas le moindre signe d'infléchissement, bien au contraire. La Commission ne représente plus rien ni personne, soutient Matteo Salvini, prêt à l'affrontement.
Matteo Salvini, chef de file de la Ligue d'extrême droite, devenu vice-premier ministre italien, qui minimise donc le rôle de la Commission européenne, et qui dans le même temps dit, comme un pied de nez, dit envisager d'être candidat à la présidence de cette même Commission européenne. Et ce, en cas de victoire d'une coalition souverainiste aux prochaines élections en mai prochain. Comment s'organisent justement les souverainistes? C'est ce que nous allons voir maintenant avec vous, Annabelle Grelier. Bonjour.
Bonjour Clara.
Pour le grand reportage diffusé tous les vendredis sur France Culture, vous avez suivi l'Américain Steve Bannon, ancien conseiller stratégique de Donald Trump. Il a créé il y a quelques semaines un think tank, un club, The Movement, pour fédérer tous les partis eurosceptiques européens et pour les aider à faire campagne. Mais Annabelle, Steve Bannon a-t-il vraiment les moyens de s'immiscer dans les affaires européennes?
Steve Bannon, limogé de la Maison-Blanche, évincé de son site d'information ultra-conservateur Breitbart par le milliardaire Robert Mercer, qui finançait également ses activités au sein de Cambridge Analytica, est en perte de vitesse aux États-Unis. Mais Steve Bannon jouit toujours d'une réputation sulfureuse. Il passe pour l'homme qui a fait lire Donald Trump ou encore fait passer le Brexit. Proche du mouvement alt-right et suprémaciste américain, il assure désormais qu'il passera le plus clair de son temps en Europe, juste après les midterms à la mi-novembre, pour venir aider tous les partis populistes et d'extrême droite en vue de remporter au moins un tiers des sièges au Parlement européen. Une aide principalement technique à travers une fondation qu'il a lancée à Bruxelles. Analyse de données, sondages, conseils en stratégie de communication, bref, la même recette qu'il aurait employée au service de Trump et du Brexit.
Et cette fondation, Annabelle, The Movement a-t-elle aujourd'hui des membres ?
Alors Steve Bannon s'est constitué une équipe, il a trouvé un partenaire à Bruxelles, Michael Modricamen, patron du petit parti populaire belge. Et depuis son apparition aux côtés de Marine Le Pen comme invité d'honneur lors du congrès du Rassemblement National, c'était en mars dernier, Steve Bannon parcourt l'Europe à la rencontre de chefs d'État et chefs de parti de la droite radicale. Mais c'est surtout en Italie qu'il a reçu le meilleur accueil. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, soutient l'initiative de l'Américain. Marine Le Pen, malgré ses atermoiements, disait la semaine dernière qu'elle accepterait son aide technique quand les autres, Viktor Orban en Hongrie, l'AFD en Allemagne, le parti UKIP en Grande-Bretagne, le FPO en Autriche, assurent pour le moment se tenir à distance. Un discours officiel qui n'empêche pas de très nombreux contacts avec tous ces partis. Des partis qui jusqu'alors n'ont jamais réussi à s'entendre, différences de culture, d'histoire. Mais Steve Bannon est persuadé que l'heure des populistes est arrivée en Europe. Quel rôle va-t-il jouer ? Quelle influence peut-il avoir sur les élections européennes ? Faut-il ou non s'en inquiéter ? Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre ce soir.
Steve Bannon, l'Europe dans le viseur, c'est le titre du grand reportage que vous avez tourné, réalisé, Annabelle Grelier, avec Jean-François Braun. Il est donc diffusé ce soir et sera suivi d'un débat autour d'Aurélie Kiefer et vos invités, Jean-Yves Camus, chercheur à l'IRIS, directeur de l'Observatoire des radicalités, et François Durper, maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise, historien spécialiste des États-Unis. Tout cela entre 17 et 18 heures. Avant cela, à 8h06, nous poursuivons le journal sur France Culture. La police turque a procédé hier à des fouilles dans une forêt située aux abords d'Istanbul et dans une ville proche de la mer de Marmara. Recherche pour éventuellement retrouver le corps du journaliste Jamal Khashoggi, disparu depuis 17 jours. Allié de l'Arabie Saoudite jusque-là, le président américain Donald Trump estime maintenant qu'il semble certain que Jamal Khashoggi soit mort. Les explications de Grégory Phillips.
Avant un meeting dans le Montana hier soir, Donald Trump déclare qu'il pense que malheureusement Jamal Khashoggi est décédé et que les conséquences pourraient être très sévères, sous-entendu pour l'Arabie Saoudite. Mais un peu plus tôt dans la journée, le secrétaire d'État Mike Pompeo, après un entretien dans le bureau ovale, avait expliqué que lui et le président étaient d'accord pour laisser encore quelques jours aux Saoudiens le temps pour eux de mener une enquête, je cite, transparente. Dans cette affaire, les Américains ont donc une position peu claire. D'un côté, Washington dit faire confiance à l'Arabie Saoudite pour mener ses investigations. De l'autre, la Maison Blanche demande au secrétaire au Trésor, Mnuchin, de boycotter lui aussi le forum économique qui doit se tenir la semaine prochaine à Riyad. Les déclarations de Trump sont également contradictoires, évoquant un jour un châtiment sévère, le lendemain défendant l'innocence du régime saoudien tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. Au cœur de cette valse hésitation diplomatique, il y a le gendre du président, Jared Kushner, qui est un proche du prince héritier Mohamed Ben Salman. Selon le New York Times, les deux hommes se sont parlé à plusieurs reprises ces derniers jours.
Et hier soir, face aux inquiétudes qui s'accumulent dans cette affaire, face aux défections nombreuses, au Davos du désert, le sommet économique organisé la semaine prochaine à Riyad, eh bien Wall Street a fini en nette baisse. Ils sont 3000 hommes, femmes, enfants à marcher depuis une semaine en remontant l'Amérique du Sud. Partis du Honduras, ils veulent rejoindre les États-Unis, une caravane de migrants qui inquiète Washington. Actuellement, ils campent à la frontière nord du Guatemala dans l'attente de traverser le Mexique. Mexique qui a renforcé la surveillance dans cette zone, Emmanuel Stills.
À la frontière avec le Guatemala, des centaines de policiers mexicains guettent l'arrivée de la caravane de migrants, la deuxième de ce type en quelques mois. Environ 3000 personnes parties du Honduras il y a 6 jours se rassemblent graduellement à Tecunuman, bourgade guatémaltèque et point de passage vers la région mexicaine du Chiapas. La caravane devrait se disperser pour traverser soit légalement par le poste frontière, soit illégalement par le fleuve Suchiate qui marque la limite entre les deux pays. Épuisés par cette longue marche et face à l'hostilité des autorités guatémaltèque, 200 migrants auraient déjà rebroussé chemin vers le Honduras, mais ceux qui restent, et parmi eux de nombreuses familles avec des enfants en bas âge, espèrent bénéficier de visas de transit au Mexique afin de gagner ensuite les États-Unis. Une fois de plus, Donald Trump a sommé le Mexique de stopper ce qu'il qualifie d'assaut mené par des migrants et des criminels. Mais à mesure que le président américain élève le ton au nord, le gouvernement mexicain adoucit ses positions au sud après avoir blindé sa frontière et annoncé que la caravane serait refoulée. Le Mexique réclame l'intervention du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Mexico prétend chercher une issue humanitaire à cette crise pour garantir les droits de ces migrants et notamment celui de demander l'asile s'ils fuient la violence dans leur pays d'origine.
Le candidat d'extrême droite à la présidentielle brésilienne, Jair Bolsonaro, est accusé d'avoir envoyé en masse des fausses informations contre le Parti des Travailleurs, son adversaire. Et ce, avant le premier tour de la présidentielle il y a 10 jours. La justice pourrait s'en saisir dans la journée.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les présidents de région sont invités ce midi à Matignon pour déjeuner avec le Premier ministre Édouard Philippe.
Et cela ressemble bien à une opération de séduction auprès des collectivités locales. Les élus locaux sont fâchés avec le pouvoir central, à cause notamment de la suppression de la taxe d'habitation. Les patrons de région, donc, à Matignon ce midi, quand Emmanuel Macron les reçoit un à un, lui, au fur et à mesure. Cet après-midi, ce sera Xavier Bertrand des Hauts-de-France. Et cela dure depuis le début de semaine, Édouard Marguier.
Cette reconquête a commencé lors du remaniement gouvernemental avec la création d'un ministère de la cohésion des territoires de plein exercice. Les élus locaux le revendiquaient depuis longtemps et en plus, ils apprécient celle qui en a la charge, la modem Jacqueline Gourault. Emmanuel Macron s'est donc empressé d'en faire le service après-vente auprès d'Hervé Morin, le président centriste de la région Normandie et président des régions de France.
Le chef de l'État a eu ces mots quand je l'ai rencontré mercredi en disant « je veux un reset de nos relations ». C'est une volonté qui est partagée. Si il ne s'agit que de communication, la réaction des collectivités sera alors là extrêmement brutale.
Cette réinitialisation des relations, pour traduire l'expression macronienne, n'empêchera pas les élus locaux de demander plus de pouvoir.
Nous allons faire nos assises de la décentralisation. Nous avons fait l'appel de Marseille, qui est en quelque sorte la revendication pour la France d'une démocratie locale affirmée. Le chef de l'État avait indiqué lorsqu'il a été élu qu'il voulait un pacte girondin, il n'a pas été écrit, nous allons l'écrire.
L'exécutif est donc à l'origine de cet apaisement parce qu'il n'en avait pas le choix, explique Patrick Lolidec, politologue à Sciences Po Paris.
On rentre dans un contexte de préparation des élections européennes. Il est probable que La République En Marche ait besoin aussi du Modem ou d'Agir, dont les élus exercent des fonctions exécutives locales et donc sont très sensibles à la question des intérêts territoriaux, à la manière dont l'exécutif répond aux demandes territoriales.
Le parti présidentiel qui affrontera ensuite ses premières élections municipales en 2020 pour tenter d'ancrer sa présence au niveau local, en vue des sénatoriales.
Le conflit social chez Air France pourrait prendre fin aujourd'hui. La nouvelle direction devrait en tout cas proposer à l'intersyndicale une augmentation des salaires, augmentation de 4% pour tous les collaborateurs. Encore faut-il que les syndicats l'acceptent. La société de la communicante de Jean-Luc Mélenchon aurait facturé très cher certaines prestations pendant la campagne présidentielle l'année dernière. La cellule investigation de Radio France donne quelques chiffres ce matin, des chiffres concernant la société de Sophia Kichirou, qui est d'ailleurs visée par l'enquête préliminaire sur les comptes de campagne du candidat Mélenchon. La justice soupçonne des surfacturations qui auraient augmenté les sommes remboursées ensuite par l'État. Et c'est dans ce cadre que des perquisitions ont eu lieu mardi. Et les policiers ont notamment perquisitionné le domicile de Sophia Kichirou à Paris. Elle est au cœur des investigations en raison du rôle de sa société Mediascope, Sylvain Tronchet.
Sophia Kichirou avait une double casquette sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Elle était à la fois directrice de la communication et prestataire via sa société, Mediascope, qui employait une bonne partie du staff de campagne. Au total, elle a facturé pour près €1 200 000. Et ce que nous avons découvert, c'est que certaines prestations paraissent très chères. Par exemple, lorsqu'un employé de Mediascope mettait en ligne un discours sur Internet, cela prend environ 10 minutes. En gros, c'est ce que vous faites quand vous postez une vidéo sur Facebook. Ça, c'était facturé 250 € à chaque discours et il y en a eu 19. Il y a aussi le sous-titrage de vidéos. En général, ça vaut 15 € la minute sous-titrée. Là, Mediascope faisait payer 200 € la minute. Et puis Sophia Kichirou, elle-même, aurait facturé son travail personnel à des prix élevés, en moyenne pour près de 15 000 € par mois. À l'arrivée, c'est l'État qui a remboursé ses factures à l'association de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ce que les enquêteurs soupçonnent aujourd'hui, c'est que la communicante ait volontairement surfacturé ses services.
Merci Sylvain Tronchet, c'est une enquête à retrouver sur franceculture.fr. Pas d'écran avant 3 ans, voici le slogan de la campagne de sensibilisation du CSA. Depuis 10 ans, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tente d'alerter les parents sur les risques d'une surexposition des jeunes enfants aux écrans de télévision, aux tablettes, aux téléphones intelligents. Sa campagne 2018 est donc lancée ce matin et elle va durer 3 jours, Julie Paco. La télévision n'est pas toujours un jeu d'enfant. C'est ce que l'on peut entendre dans ces spots de 30 secondes. Depuis 2008, le message martelé par le CSA n'a donc pas vraiment changé. Or, en 10 ans, les écrans se sont multipliés dans les foyers et le temps passé devant a explosé, même chez les tout-petits. Carole Bien-Aimé-Besse est membre du comité d'experts jeunes publics du CSA.
Les parents sont totalement démunis et désemparés face à l'utilisation des écrans. Qu'il s'agisse de jeux vidéo, de temps passé devant les dessins animés, devant les applications. Donc là, l'idée, c'est de les informer, c'est de leur expliquer pourquoi mettre un bébé devant un écran, c'est une très mauvaise idée. Même si au départ, les parents le font en pensant bien faire. Ils pensent que c'est une fenêtre sur le monde, que ça va éveiller leurs cinq sens ou développer des capacités intellectuelles plus importantes. Et en fait, c'est une erreur. Donc ces spots sont là pour informer et expliquer que ce n'est pas le cas. Mais on est conscient qu'on n'en est qu'au début et qu'il y a encore beaucoup à faire.
Car cette campagne diffusée pendant 3 jours l'est uniquement sur les médias traditionnels. Une prévention trop timide pour le docteur Annelise Ducanda, membre du collectif Surexposition Écran.
Nous, on souhaite, comme les 5 fois 5 légumes par jour, que ce soit entendu tous les jours par les parents. Les professionnels de santé, les enseignants, nous disent constater une augmentation exponentielle des troubles du comportement, des enfants agités, agressifs, qui ne supportent pas la frustration, qui sont des fois même dans le trouble de la relation et de la communication, hein, qui sont enfermés dans leur bulle, et des retards de langage très importants, des retards moteurs et cognitifs.
Des études alarmantes, mais encore trop partielles, selon la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a saisi le Haut Conseil de la Santé publique sur ce sujet, afin qu'il puisse émettre à son tour des recommandations.
Un temps calme et sec est prévu aujourd'hui partout en France. Pour les températures, comptez 12 degrés ce matin à Clermont-Ferrand, 13 à Lille et Besançon, 15 à Paris, Lyon, 16 degrés sur le sud-ouest, 23 à 24 près de la Méditerranée.